Très bon réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle bataille politique sur le Brexit. Les 27 opposent une fin de non-recevoir à l'exigence de Londres pour renégocier l'accord pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE le 29 mars prochain. En cause, toujours le filet de sécurité prévu pour l'Irlande.
Et puis en France, la droite se met en ordre de bataille pour les européennes avec une tête de liste qui divise au sein du parti Les Républicains.
Dans La République en marche, c'est une loi qui divise cette fois la majorité présidentielle, la loi dite anti-casseurs. Elle a commencé à être examinée hier soir à l'Assemblée. Elle a eu encore des difficultés sur les routes et dans les airs à cause de la tempête Gabriel dans le nord de la France et l'Aveyron. Le Venezuela s'apprête lui à vivre une nouvelle journée de manifestation à l'appel de l'opposant Juan Guaido.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, les universités peuvent-elles s'opposer à la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers? On posera la question à Jean-François Balaudet, il est président de l'université de Paris-Nanterre.
Pour la première fois dans l'épineux dossier du Brexit, Theresa May a réussi à obtenir le soutien des députés britanniques. La première ministre a ouvert la porte à de nouvelles négociations sur la frontière irlandaise, une manière de surmonter les divisions au sein du Parlement. Theresa May a tenté hier de ranger les députés derrière elle.
Ces dernières semaines, cette Chambre n'a laissé aucun doute sur ce qu'elle ne voulait pas. Elle ne veut pas quitter l'Union européenne sans accord, car cela nuirait à notre économie et perturberait la vie des Britanniques. Cette Chambre ne veut pas d'élection générale, car cela nous ferait perdre du temps, créerait de nouvelles tensions et ne résoudrait aucun de nos problèmes actuels. Mais j'accepte aussi que cette Chambre ne veut pas de l'accord que je lui ai présenté dans sa forme actuelle. Le monde sait donc ce que cette Chambre ne veut pas. Aujourd'hui, nous devons envoyer un message fort sur ce que nous voulons vraiment, un bon accord qui nous assurera un avenir prospère.
L'avenir du Royaume-Uni et du Brexit sera-t-il aussi radieux que ce que souhaitent les députés à Londres? Ils ont invité donc hier Theresa May, en accord d'ailleurs avec le gouvernement, à aller renégocier la clause censée éviter le rétablissement d'une frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord après la sortie de l'Union européenne. Sauf que ça s'annonce compliqué avec les 27. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Londres. Les dirigeants européens ont déjà exclu toute renégociation sur un texte étudié pendant 2 ans.
Oui, 2 ans de discussion et 585 pages au total, c'est simple. Donald Tusk, le président du Conseil européen, le dit, il refuse catégoriquement de recommencer à parlementer, tout comme Emmanuel Macron. En fait, Theresa May elle-même le reconnaît, il n'y a pas à Bruxelles un grand appétit de renégocier. Mais pour la Première ministre, ce n'est peut-être pas le plus important, qu'elle obtienne ou non des avancées, des accommodements de la part des dirigeants de l'Union européenne. Ce vote de l'Assemblée qui lui donne un mandat pour rouvrir les discussions, lui permet pour la première fois depuis des mois de s'appuyer sur les députés et de proposer une solution à la crise en faisant endosser la responsabilité de l'échec du Brexit aux Européens et en gagnant du temps. En fait, dans 2 semaines, le 13 février, Theresa May doit revenir au Parlement, présenter ses résultats. Le 14, les élus pourront déposer de nouveau des amendements, mais ils seront ensuite en vacances. Il ne restera au final qu'un mois environ pour trouver une solution au Brexit avant la sortie programmée le 29 mars. Faute de temps, les députés seront donc peut-être forcés d'accepter de valider l'accord conclu par la Première ministre avec ou sans concession de Bruxelles.
Une course contre la montre, on l'entend Antoine, le président du Conseil européen se dit tout de même prêt à considérer toute demande raisonnable pour repousser la date de sortie du Brexit au-delà du 29 mars. Alors, quelle proposition pourrait donc émerger maintenant ?
En fait, la seule proposition alternative qui émerge pour l'instant n'est pas forcément justement raisonnable. C'est un compromis qui pourrait tout de même réconcilier les conservateurs. Un plan qui a été négocié en secret ces derniers jours par Keith Malthouse, le ministre du Logement, avec les députés pro et anti-Brexit. Tous sont, semble-t-il, d'accord pour sortir de l'Union européenne le 29 mars prochain en mettant en place à ce moment-là une période de transition de près de 2 ans, le temps de négocier un nouvel accord de libre-échange avec Bruxelles. Il y aurait aussi un système de surveillance pour éviter de reconstruire la frontière en Irlande. Le problème, c'est que ce système n'existe pas pour l'instant. Robert Peston, journaliste politique d'ITV et spécialiste du Brexit, résume ce matin la situation en 2 mots. Aucune chance que ça fonctionne. Les interlocuteurs à Bruxelles trouvent l'idée à la fois extraordinairement drôle et extraordinairement tragique.
un casse-tête. Donc ce Brexit, merci beaucoup Antoine Vigneault, en direct de Londres ce matin pour France Culture. Beaucoup de questions en suspens, on l'entendait, à 58 jours de la sortie prévue du Royaume-Uni de l'UE et à 4 mois des élections européennes en France, la droite parie sur François-Xavier Bellamy pour conduire sa liste aux élections de mai prochain. Mais les positions de cet agrégé de philosophie de 33 ans, adjoint au maire de Versailles, catholique, ex-Manif pour tous, divisent au sein du parti Les Républicains, où François-Xavier Bellamy n'avait toujours pas pris sa carte d'ailleurs le week-end dernier. Hier, la commission d'investiture des LR a validé le choix de Laurent Wauquiez en le flanquant de 2 autres personnalités censées symboliser le parti dans toute sa diversité, avec Agnès Evren, une ancienne porte-parole de Valérie Pécresse, et Arnaud Danjean, ex-jupéiste. Ce trio a largement été approuvé hier, Rosalie Lafarge.
38 voix pour, seulement 2 contre, celle du maire du 15e, Philippe Goujon, et celle du sénateur Pierre Charron, inquiet du choix de François-Xavier Bellamy en numéro 1.
La tête de liste ne me convient pas. J'ai expliqué que c'était dangereux de mettre quelqu'un qui suscitait des débats avant même d'être désigné. Alors c'est trop dangereux. Au point où on est là actuellement, il ne faut pas s'exposer. Je pense que Laurent Wauquiez était le meilleur d'entre nous pour porter la parole des Républicains. C'est pas une incongruité que de dire ça, ni une vacherie, ni un piège. C'est ce que je pense profondément.
Malgré tout, le choix d'une représentation à 3 têtes semble avoir calmé la plupart des voix qui s'élevaient, au moins au sein de la commission d'investiture. Même le président du Sénat, pas franchement fan de François-Xavier Bellamy et de ses positions très conservatrices, accepte de s'engager dans la campagne, se félicite Éric Ciotti, patron de cette commission.
Il y a toujours des inquiétudes dans la vie politique. Ce qui compte, c'est la volonté, c'est l'exigence de l'engagement, c'est la force des convictions et tout le monde, et le président Larcher en premier, a réaffirmé sa volonté de participer activement à cette campagne. Donc on a un beau défi devant nous et nous allons le relever.
Mais le défi reste de taille. Les sondages placent les Républicains aux alentours de 10% d'intention de vote aux européennes. Le parti sait qu'il va devoir convaincre et mise pour cela sur le renouvellement, pas seulement en tête d'affiche. Les LR s'engagent à ce que la moitié des 20 premiers noms de la liste soient des nouveaux candidats.
Une liste complète qui devrait être dévoilée mi-mars. Une réconciliation des gauches pour les élections européennes, c'est l'ambition de Place Publique, le mouvement politique fondé en novembre dernier par l'essayiste Raphaël Glucksmann, la militante écologiste Claire Nouvian et l'économiste Thomas Porcher. La formation politique a rempli hier soir la salle de l'Élysée-Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris. Meeting à suivre dans le journal de 7h30. Le Conseil d'État doit examiner aujourd'hui des recours déposés en urgence par la CGT et la Ligue des droits de l'homme, qui demande la suspension de l'usage des LBD, les lanceurs de balles de défense, dans les manifestations. La polémique sur le LBD, une arme dite intermédiaire, a enflé ce week-end après la grave blessure à l'œil à Paris d'une figure du mouvement des Gilets jaunes. Jérôme Rodriguez affirme avoir été touché par une balle de défense, ce qu'aucun élément ne permet à ce stade de dire, a nuancé de son côté le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez. Le ministre Christophe Castaner a lui défendu cette nuit à l'Assemblée nationale la loi dite anti casseurs initiée par la droite et soutenue par le gouvernement pour répondre notamment aux violences dans les manifestations des Gilets jaunes. En attendant la reprise des débats cet après-midi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a justifié la pertinence de la loi dans un style très sarkozyste pour un ancien socialiste.
Chaque semaine, une petite minorité de brutes menace, vise, attaque. Nous avons choisi de dire aux forces de l'ordre, remarquable de professionnalisme et de sang-froid, que nous étions à leur côté. Nous avons choisi de défendre les millions de Français qui n'en peuvent plus plutôt que quelques milliers de brutes. De petits groupes opportunistes se greffent avec comme seul mantra la volonté de détruire. Ça suffit. Il est temps d'agir. Il est temps de stopper les brutes. Tolérance zéro contre les violences. Mesdames et messieurs les députés, ne ratons pas ce rendez-vous que nous avons avec celles et ceux qui s'engagent tous les samedis. N'aura-t-on pas cette opportunité d'être à la hauteur de leur engagement ?
Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, propos recueillis par Karine Bécard. Voilà une question qui fâche en plein débat national. Le gouvernement a-t-il encore un budget suffisant pour financer de nouvelles mesures sociales ? Rien n'est moins sûr, selon l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui estime que le déblocage par Emmanuel Macron de 10 milliards d'euros pour répondre au mouvement des Gilets jaunes aura certes un effet de relance massif, mais cette enveloppe va creuser par ailleurs le déficit et le gouvernement gouvernement n'aura plus vraiment de marge de manœuvre pour financer de nouvelles mesures sociales à l'issue, justement, du grand débat national.
7h10 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Vent, chute de neige et coupure de courant, la tempête Gabriel continue de traverser la France ce matin.
15 départements sont toujours en vigilance orange pour neige et verglas. Circulation compliquée sur l'autoroute A16 depuis Amiens dans le sens nord-sud à cause de la neige. Pas de transport scolaire dans le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal, tout comme dans les Hauts-de-France, une région où la circulation des poids lourds est interdite. Fermeture par ailleurs de la Nationale 118 qui relie les Ulysses dans l'Essonne au sud-ouest de Paris. Dans les airs, une vingtaine de vols ont dû être annulés à l'aéroport de Paris-Orly. Sur les rails, la SNCF a activé son plan grand froid, tout comme la RATP à Paris. Et puis la Fédération des acteurs de la solidarité rappelle de son côté que des milliers de personnes sans abri, isolées ou en famille sont en danger, faute d'hébergement disponible. Direction le Venezuela à présent. Ce pays s'apprête à vivre une nouvelle journée de manifestation. Aujourd'hui à l'appel de l'opposant Juan Guaido, le président de l'Assemblée nationale qui s'est proclamé chef de l'État par intérim la semaine dernière. Depuis, il ne cesse d'accroître la pression contre le président élu mais contesté Nicolas Maduro. Ce dernier serait prêt à ouvrir des pourparlers avec l'opposition via la médiation d'acteurs internationaux, affirme ce matin l'agence de presse russe RIA. En attendant d'éventuelles négociations, donc, Juan Guaido compte des soutiens de poids, dont les États-Unis, qui ont annoncé une série de sanctions économiques contre l'entreprise publique pétrolière du Venezuela, la PDVSA. Caracas tire 96% de ses revenus du pétrole et ces sanctions vont non seulement prendre le gouvernement à la gorge, mais très probablement aussi la population. Le reportage à Caracas de Benjamin Delisle.
Dans le quartier de Chacao, réputé d'opposition, on se prépare doucement à la manifestation de ce mercredi. Pour bon nombre d'opposants, les sanctions qui devraient aggraver l'hyperinflation et les pénuries sont un mal nécessaire. C'est ce que pense Andrés, 21 ans.
Malheureusement, ça va affecter la population parce que c'est la première source de revenus du pays. Même si ça mène à un vrai changement, ça vaut le coup.
Tous ici s'accordent pour dire que n'importe quelle forme de pression contre Nicolas Maduro ne peut qu'être bénéfique. Pour Herminias, il faut accepter un dernier sacrifice après toutes les souffrances liées à la crise économique, il faut le faire.
Vous savez, nous, les Vénézuéliens, on est habitués à vivre en crise. Ce qui nous a poussés à manifester, à nous révolter, c'est la faim. Le fait de vivre l'inflation au jour le jour, ça y est, on est habitué.
Pour Daniel, 59 ans, ces sanctions vont contraindre le gouvernement à négocier sa sortie en s'attaquant à son porte-monnaie.
Ils essayent de faire en sorte que cette dictature, qui usurpe le pouvoir, puisse partir pacifiquement. Ils essayent d'éviter au maximum la perte de vies humaines.
Pourtant, dans un message adressé aux États-Unis, lundi, Nicolas Maduro prévenait Donald Trump que si du sang venait à couler au Venezuela, ce serait de sa faute.
Benjamin Delisle à Caracas pour France Culture. Le Venezuela sous tension politique et économique. On y revient à 7h24 avec le reportage de la rédaction signé Sacha Coleman. Le temps de ce mercredi 30 janvier marqué, je vous le rappelle, par cette vigilance orange pour neige et verglas qui concerne plus de 15 départements dans le nord de l'Hexagone auxquels s'ajoute l'Aveyron dans le sud. Température minimale moins 4 degrés, ce sera dans la région Rhône-Alpes. Le maximum 8 degrés, ce sera en Nouvelle-Aquitaine, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.